nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos deux invités, Sarah Cohen de Boulakia. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et j'allais dire Tanguy Le Carreau, non mais je préciserai qui est Tanguy tout à l'heure. Et Conrad Insen. Bonjour Conrad.
Bonjour.
Je vous précise un petit peu après. Je précise, oui, bon, en fait il y a une troisième personne dans le studio, c'est Tanguy Le Carreau qui a grandement aidé à préparer cette émission. Tanguy qui travaille notamment pour l'entreprise libriste Easter Eggs qui héberge l'April, hein, qui nous héberge nous, et qui est l'un des organisateurs des 10 ans de Geeks dont on parlera en fin d'émission et qui ont lieu à Paris en fin de semaine. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation. Soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Soit par téléphone, si vous voulez, au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, l'idée de cette émission est venue suite à une émission il y a quelques mois, en février 2022, sur la science ouverte, dans laquelle l'un des intervenants, suite à une question sur les possibles bugs de logiciels utilisés dans la recherche, et d'ailleurs utilisés partout, les logiciels, est-ce que ça pouvait avoir un impact? Et évidemment, la réponse était oui. Et cet intervenant n'est pas rentré dans les détails, mais par contre, a exprimé utilisé l'expression de reproductibilité logicielle ou reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Donc on s'est dit, on va consacrer ce sujet, un sujet de cette émission, à ce thème-là, à la fois la reproductibilité en général pour que vous compreniez l'importance, et puis après, évidemment, précisément des environnements logiciels, et puis des solutions éventuellement qui existent. Mais d'abord, première question, on va commencer par une présentation de deux personnes invitées. On va donc commencer par Sarah Cohen-Boulakia.
Donc bonjour, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay, je suis professeure et je suis directrice de ce qu'on appelle un GDR, un groupement de recherche au CNRS, le Centre National Classique.
D'accord.
Voilà.
Conrad Insen.
Oui, alors moi je suis chercheur au même CNRS déjà cité, le Centre National de Recherche Scientifique et plus précisément au Centre de Biophysique Moléculaire à Orléans.
D'accord. Et toi, Sarah, ta spécialité, c'est plutôt quoi?
Alors, c'est plutôt la bioinformatique, d'accord, mais je suis informaticienne de formation.
D'accord. Alors, premier grand thème, on va essayer de... Alors, je précise voilà, que des gens arrivent sur le salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Marie-Odile qui est traditionnellement présente, et Marie-Odile que je salue parce que c'est elle qui va faire la transcription de l'émission. Je rappelle que toutes nos émissions sont transcrites grâce au travail important de Marie-Odile Morandi. Moi, effectivement, tout à l'heure, je discutais avec une personne là-haut au studio qui me demandait quel était le sujet de l'émission du jour. Et je lui disais, ça va être la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Et j'ai bien senti qu'il n'avait jamais entendu parler de ce terme. Et c'est vrai que moi, depuis l'émission avant la mission de la science ouverte en février dernier, je n'avais pas forcément entendu parler de ce terme précis. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, donc, on va dire, la question, l'importance de la reproductibilité, déjà au sens large, dans la recherche? Qui veut commencer? Sarah, ouais,
je vais bien tenter. Ouais. Alors, disons qu'un des grands principes, un peu de base, qu'on va avoir en science et en recherche, c'est qu'on va chercher à avoir une science qui est cumulative. On va se reposer sur des connaissances, sur des résultats qui sont préexistants. Ces résultats, il faut qu'ils soient solides. Il faut qu'on puisse les reprendre. Il faut qu'on puisse vraiment se baser dessus. C'est un peu comme un édifice. C'est important que les fondations soient solides. Et donc, la reproductibilité, c'est en premier élément, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des résultats qui puissent être validables par d'autres, par nos pairs, et donc reproduits par de tierces personnes.
D'accord. Conrad ?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est l'idée, c'est qu'on puisse construire là-dessus, mais qu'on puisse vérifier ce qui en fait d'autres. C'est aussi, on peut dire, je dis souvent, au terme d'ingénierie, c'est un protocole de correction d'erreurs. Parce que bon, tout le monde fait des erreurs, même avec des meilleures intentions. Et bon, parfois, il y a des gens qui font pas que des erreurs, mais aussi des modifications intentionnelles de la vérité.
Même dans la recherche?
Pour le dire gentiment, oui, malheureusement, des histoires de fraude font, ils sont pas si fréquents que ça. Il faut pas non plus exagérer. D'accord. C'est pas je crois que l'erreur est un problème beaucoup plus fondamental que la fraude aujourd'hui. Mais l'erreur, évidemment, elle existe. Et comme tout le monde qui utilise l'ordinateur sait que l'informatique aussi, c'est plein d'erreurs. Donc, en fait, l'idée de regarder ce qu'ils font l'autre, de passer derrière, vérifier, c'est toujours une bonne idée. Et donc, la reproductibilité, c'est un peu ça, c'est l'idée qu'on puisse refaire l'expérience sur quelqu'un d'autre, comparer si le résultat me paraît suffisamment proche pour qu'on puisse dire que on a fait la même chose, on a fait le même résultat et on peut avancer et construire là-dessus.
Et c'est une base essentielle, je suppose, pour la confiance de tout le monde dans la recherche. Parce que tu parlais de fraude ou d'erreur. Mmh. Alors, les deux dernières années qu'on a vécues, il y a eu quand même beaucoup de remises en cause, ou en tout cas de questionnements par rapport aux différentes recherches qui ont pu être faites, etc. Donc, la reproductibilité, si je comprends bien, c'est une base essentielle pour que d'autres chercheurs et chercheuses puissent refaire les tests dans les conditions quasiment identiques initiales et pour valider les résultats obtenus. C'est ça?
Alors, c'est l'idée. Bon, j'entends bien les problématiques de fraude, mais je voudrais quand même dire que les problèmes de reproductibilité qu'on a aujourd'hui, ce sont d'abord des erreurs ou des manques de traçabilité. Exactement. D'accord. Comme un chimiste qui ferait une expérience en laboratoire et qui, du coup, va se retrouver à avoir mal noté son pH, à avoir mal noté sa température et, du coup, à vouloir la refaire le lendemain et elle ne fonctionne plus. Voilà, donc là, on a cette problématique avec, en informatique, des données qui sont de plus en plus présentes, de l'informatique qui est de plus en plus dans nos sociétés, et se pose la question de, je veux reproduire une expérience, soit qui a été faite par un collègue, soit moi-même, au bout de quelques semaines, qu'est-ce qui va m'assurer que j'ai gardé la trace, que je sais comment refaire mon expérience à l'identique.
D'accord. Et j'ai une question sur le salon web, là, c'est, est-ce que c'est la même chose que la revue par les pairs?
Alors, non.
Non.
Non, c'est plus technique que ça. La revue par les pairs, c'est particulièrement important. Le fait de justement pouvoir relire un article scientifique, ça fait partie d'être lu par des collègues, ça fait partie évidemment du processus scientifique. Mais quand on vise à être reproductible, on vise plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on demande aux pairs qui nous relisent d'être capables de reproduire la même figure, par exemple, qu'on aurait mis dans un article sur leur machine à eux.
D'accord.
Et on a maintenant des éditeurs qui font cet effort de demander à ce que les auteurs fournissent ce qu'il faut pour que les pairs, justement, qui review l'article, qui relisent l'article, puissent refaire tourner eux-mêmes en indépendance ce qui a tourné initialement chez l'auteur.
D'accord.
Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est la tendance du moment, c'est d'intégrer la reproductibilité dans la revue par les pairs. Donc l'idée, c'est vrai qu'effectivement, dans le journal propose pas seulement un article, des mots et des figures sur papier ou en électronique, mais propose en plus un environnement de calcul qui permet aux gens de suivre, refaire les calculs, obtenir les mêmes choses, et après se dire que bon, si je peux obtenir les mêmes choses, je peux aussi modifier un paramètre, voir ce que ça fait, jouer un peu avec ces résultats-là. C'est en cours, il y a les premières revues qui s'y mettent, c'est effectivement très difficile, techniquement parlant, de vérifier un calcul.
D'accord. Donc c'est relativement, si je comprends bien, c'est relativement récent le fait oui. que les revues demandent aux auteurs ou autrices d'articles scientifiques que ces personnes oui. mettent à disposition de quoi finalement refaire l'expérience.
Ouais. Bah, aujourd'hui, récent. Je dirais que s'il y a une dizaine de journaux qui le font, c'est beaucoup. Sur des milliers qui existent quand même. Donc c'est vraiment une petite goutte.
C'est une petite goutte, d'accord. Mais alors pourquoi alors?
C'est très difficile. Il y a des revues qui ont tenté de s'y mettre, qui ont fait des annonces, les grands surtout, et qui se sont rendus compte que c'est pas facile du tout. Parce que premièrement, les auteurs n'ont pas l'habitude de mettre à disposition leur environnement de calcul, documenter leurs calculs pour qu'on puisse les refaire. Après, l'évaluateur derrière, le pair qui est censé évaluer, bah, il doit avoir une certaine compétence du domaine, ça c'est normal. Il doit plus avoir des compétences techniques. Bon, il n'a pas forcément le même ordinateur que les auteurs, donc il y a une friction au niveau des différences des systèmes informatiques. Et en fin de compte, bah, comme tout le monde qui a fait quoi que ce soit avec des logiciels sait que bah, ça prend un temps, ça prend toujours 10 fois plus de temps qu'on estime en l'avoir avant. Et tout le monde est débordé. On nous demande de plus en plus d'évaluer des papiers des autres et simplement, on ne prend pas le temps.
D'accord. Sarah, oui.
Alors peut-être pour compléter, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez étonnant, j'allais dire, dans le manque de reproductibilité en informatique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une température, on sache pas la remettre au même niveau, à ce que voilà une expérience chimique, on a tous fait des TP à l'école et des fois, ben le précipité, il a pas la couleur qu'on attendait et bon, ben on sourit tous et puis on dit à la prof que oui c'était bleu madame, je vous promets. En informatique, on s'attendrait à ce que bon sang, quand tu fais tourner un même calcul deux fois de suite ou deux fois en une semaine, on obtienne le même résultat. On est en train de faire des maths. Normalement, 3 plus 3, ça fait 6, et puis c'est tout. Là, en fait, ce qui est vraiment nouveau, et c'est une prise de conscience qu'il y a eu aussi chez les collègues biologistes et autres qui utilisent l'informatique, c'est qu'en fait, ben, la question, elle est plus compliquée que ça. Être capable de reproduire un résultat informatique, c'est un problème difficile.
D'accord. Et le problème existe aussi sur les données, je suppose.
Bien sûr.
C'est complémentaire, les deux, en fait.
C'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire que quand tu veux que ton programme y soit reproductible, il faut que tu puisses être sûr d'assurer que tu utilises les mêmes données, en gros, avec les mêmes logiciels. Et du coup, bah, normalement, tu vas obtenir les mêmes résultats. Sauf que les données, elles bougent et les logiciels, ils bougent. Et donc, on a ces deux paramètres-là, si j'ose dire, qui vont vraiment avancer dans le temps et tu le sais pas forcément.
D'accord.
Bah, en fait, on a tout à l'heure, on a évoqué l'édifice de la science et les logiciels, c'est la même chose, c'est un édifice aussi. Hein, il y a un socle de base qui est un système d'exploitation, et après il y a des couches de bibliothèques, de compilateurs, d'interprètes, toutes sortes d'outils. Hein. Et un chercheur, typiquement, se met en dessus d'une grosse pile de logiciels et rajoute sa partie méthode scientifique. Et donc le problème, c'est souvent que quand on parle d'environnement de calcul, c'est tout juste tout ce qui est en dessous. C'est tout ce qu'il me faut pour tourner mon logiciel. Et ces logiciels qui sont le socle de mon logiciel à moi, la fondation, bah ça bouge effectivement, comme Sarah a bien dit. Ça bouge dans le sens que les gens corrigent des bugs, rajoutent des fonctionnalités, cherchent à améliorer. Il n'y a aucune mauvaise volonté derrière. Mais en se faisant, bah, ils font des erreurs. Ils font des modifications intentionnelles qui ont des conséquences non voulues, mais parfois fort désagréables pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que si on pense faire le même calcul, et en réalité, on a gardé le sommet de la montagne identique, et tout ce qui est en dessous, ça a bougé pas mal, et en fait, on ne fait pas les mêmes calculs, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est ça le fond du problème de la reproductibilité computationnelle.
D'accord. Et dans le domaine de la recherche, donc est-ce que vous utilisez des systèmes que vous gérez comme des systèmes comme le grand public, des systèmes libres? Est-ce qu'il y a beaucoup de logiciels je suppose qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont développés à façon entre guillemets, c'est-à-dire dédiés par exemple à une expérience. Est-ce que des chercheurs, peut-être aidés avec des informaticiens et des informaticiennes, développent des logiciels vraiment à façon, et est-ce que ces logiciels sont rendus disponibles pour justement tester les calculs qui ont été faits à partir de ces logiciels?
C'est très variable. Je dirais de plus en plus, c'est effectivement ça. Et la recherche ces derniers temps s'est beaucoup inspirée du monde libre. Et d'ailleurs, la science ouverte, en anglais, l'open science, c'est vraiment une allusion directe à l'open source. Hein. C'est pas l'analogie, c'est vraiment voulu de reprendre les méthodes de travail, notamment. En contrepartie, on ne peut pas dire que c'est vrai partout. Historiquement, il y a eu des domaines où on a plutôt eu des logiciels faits par les chercheurs pour les chercheurs et du coup libres. Mais pas forcément publié, donc genre je peux l'avoir en demandant gentiment à mon collègue. C'est parfois peut créer des tensions un peu difficiles. On se dit, est-ce que je vais le montrer à ma concurrence, oui ou non? Et sinon, il y a aussi des domaines, notamment de la chimie, où il y a une forte tradition de logiciels propriétaires. Et là, la logique est très différente. Pour eux, la confiance dans le logiciel ne vient pas du fait que c'est libre, mais que c'est fait par les professionnels. Donc les gens ont plus de confiance à un logiciel fait par un programmeur professionnel qu'à un logiciel fait par un thésard qui a appris la programmation au cours de sa thèse.
D'accord. Alors je précise que je voulais arriver sur le salon web des personnes, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le salon web, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, à poser des questions ou réagir. Hein. Je surveille le salon tout en discutant avec nos deux invités sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle personne a dit que finalement, un calcul fait sur un ordinateur, si on le refaisait ou à un autre moment, le résultat pourrait être différent. Mais pourquoi?
Alors, c'est ça la reproductibilité. C'est que normalement, il devrait être le même. Et c'est ce qu'expliquait là Conrad à l'instant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient avant. Alors, avant, quand ils n'étaient pas reproductibles, c'était des bugs. Ne citons pas certains. J'ai OS qui me vient. Operating System. Système d'exploitation, merci. Qui était franchement buggé. Aujourd'hui, c'est plus, comme l'expliquait Conrad, le fait qu'on a le fait d'empiler, en fait, des couches un peu logicielles. On a toujours maintenant des systèmes d'exploitation par-dessus lesquels on va avoir des langages et on va installer ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser, par exemple, du Python. À l'intérieur de Python, on a un certain nombre de librairies.
Python, c'est un langage de programmation.
Voilà. Et donc, on va se retrouver quand on veut refaire tourner un programme qu'on a codé précédemment, à devoir s'assurer que est installé sur ma machine tout ce qu'il faut. Sauf que potentiellement, j'ai pu avoir une mise à jour qui s'est faite un petit peu, et du coup, c'est plus exactement la même version de Python, et donc j'ai une de mes librairies qui réagit pas comme d'habitude, et ça crache pas forcément, ça ne va pas me dire attention, il y a un problème, mais ça peut changer un arrondi dans un calcul, ça peut changer un comportement logiciel. D'accord. Ça, c'est un exemple un peu gros grain, mais ça fait partie des choses qui sont possibles.
D'accord. Conrad, est-ce que tu as un exemple précis, particulièrement, qui serait parlant de ce phénomène?
Oui, je peux citer un exemple qui a fait un peu de bruit dans mon domaine il y a trois ans.
Rappelle quel est ton domaine?
Mon domaine, c'est la biophysique computationnelle. Donc, une des techniques expérimentales qui est largement utilisée en chimie, en biochimie, c'est la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui sert à identifier les structures de molécules en mesurant l'environnement chimique de chaque atome. Et c'est une technique très bien développée, très stable, bien établie et très routinière. Et il y a donc des scripts d'analyse de données qui produisent immédiatement des choses qu'on veut avoir. Et donc, un de ces jeux de script qui était largement utilisé a été trouvé un peu défectueux d'une certaine façon il y a 3 ans par une équipe qui s'est rendu compte que ça fonctionne effectivement très bien sous Windows où ça a été programmé, c'est des scripts Python, et ça donne des résultats aléatoires sur Linux. Et donc, ils ont fouillé un peu, et la cause du problème, c'était que le logiciel, le script fait l'hypothèse que si je demande la liste des fichiers dans un répertoire, elle est triée par ordre alphabétique, ce qui est vrai sous Windows pour Python, et c'est pas vrai sous Linux. C'est pas garanti non plus, hein. C'est simplement un malentendu d'une certaine façon. Et comme les auteurs ont testé uniquement sur Windows, ils s'en sont pas rendus compte. Et maintenant, c'est le problème du deuxième niveau. On a des centaines de papiers qui utilisent ces scripts-là. Et évidemment, ils disent pas s'ils ont utilisé Linux ou Windows. Et du coup, on sait pas si on peut faire confiance aux résultats. Donc ça, c'est un cas assez banal, mais assez typique pour ce genre de problème.
Alors, banal, mais un peu effrayant, quand même.
Ah, un peu effrayant, oui.
Surtout pour la personne qui a développé ça, c'est...
Ça, c'est sûr, oui. Et les conséquences aussi pour tous ces gens qui ont investi beaucoup d'efforts pour utiliser ces scripts. Et bon, leur intérêt n'est pas ces scripts-là, et ça fait partie du problème. Leur intérêt, c'est les résultats. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent comme ils utilisent une machine à écrire. Bon, aujourd'hui, ou utilisent un logiciel pour faire leur mail. Ils réfléchissent pas forcément à ce genre de logiciel, c'est pas leur centre d'intérêt.
Alors justement, comment se passe la collaboration entre vous qui faites de la recherche et les personnes qui développent ces outils? Ou peut-être que ce sont les mêmes des fois, mais comment ça se passe si par exemple, on est une chercheuse, on travaille sur un domaine, on n'a pas de compétences informatiques, mais par contre on repose sur du développement logiciel, donc je suppose qu'il y a dans l'équipe de recherche quelqu'un qui s'occupe, une personne qui s'occupe du développement logiciel. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez regarder le code quand est écrit en Python? Comment ça se passe, en fait?
Alors, pour parler de mon domaine qui est effectivement pas l'informatique, donc on est plutôt physicien chimiste, les petits scripts du quotidien qui encodent la connaissance du domaine, c'est fait par les chercheurs pour les chercheurs qui n'ont aucune compétence, surtout pas aucune formation en programmation ou informatique ou autre chose.
Donc c'est les personnes qui font la recherche qui développent dans ce cas-là.
Oui, plus typiquement, c'est des thésards, pour le dire très clairement.
Hein. Okay.
Et après, c'est les collègues qui regardent un peu, mais c'est très informel. À l'autre bout de l'échelle, quand on fait des calculs haute performance, quand je fais des simulations de protéines qui tournent pendant 3 semaines sur un superordinateur, ça, ce sont des logiciels faits par des équipes qui combinent, qui ont quelques chercheurs et surtout beaucoup d'ingénieurs logiciels. Donc, il y a tout là-dedans, entre le tout petit et le tout grand. Et il faut tout ça. C'est pas le même type de logiciel, le même type de travail derrière.
D'accord. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, alors en bioinformatique, on va retrouver un peu des choses un petit peu plus structurées, si j'ose dire, parce que c'est un domaine dans lequel, justement, la création même du mot, c'est des biologistes et des informaticiens, et puis des gens qui sont au milieu, entre les deux, soit qui proviennent de l'informatique, soit de la biologie, mais en tout cas qui parlent un langage commun. Et donc, si on prend l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, tous ces grands instituts, on va avoir souvent une direction des systèmes informatiques, donc une DSI, qui va gérer des aspects essentiellement d'infrastructure, s'assurer que tout le monde ait une machine, que les serveurs tournent, etc. Et puis on va avoir des équipes de bioinformatique, des hubs de bioinformatique, dont le métier finalement va être de faire l'interface avec les chercheurs de bio qui produisent des données. Et donc on va avoir vraiment des mécanismes dans lesquels les biologistes vont venir, j'ai fait un nouveau séquençage d'un génome avec une PCR ou autre, comme on entend beaucoup maintenant, les gens sont plus habitués à ce genre de vocabulaire, entre guillemets malheureusement. Comment est-ce que je fais pour assembler mon génome? Comment est-ce que je fais pour extraire des connaissances à partir de ces données? Et là, on a des équipes de bioinformaticiens dont ça va être le métier et qui sont de plus en plus formées aux techniques dites reproductibles, pour faire avec l'équipe A ce qu'ils ont fait avant avec l'équipe B, par
exemple. Et inversement, donc l'équipe informatique, est-ce qu'elle questionne la provenance des données, l'utilisation des données, la fiabilité des données?
Alors oui, bien sûr. On a maintenant de plus en plus, de réflexes à avoir. Et même dès qu'on demande de l'argent ou autre pour faire de la recherche, on nous demande de remplir des tas de beaux papiers. Donc c'est tout le problème, il va être là. C'est de pas transformer la reproductibilité en le fait de dire oui, je vous promets, j'ai bien fait ce que j'étais censé faire. Mais plutôt, concrètement, nous aider en nous donnant à la fois des aspects infrastructure et puis du manpower, des gens qui sont bien formés pour faire ces interfaces, finalement, d'ingénierie pour avoir une science et des résultats qui sont plus reproductibles et de meilleure qualité au sens scientifique du terme.
D'accord. Je vais relayer deux remarques, ou plutôt même questions d'ailleurs, sur le salon web. Hein. Alors, on entend beaucoup parler de sobriété numérique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cet enjeu-ci? Ici, à force, ne perd-on pas notre capacité à efficacement reproduire?
Alors là, j'allais dire, il y a presque un... Donc, en fait, quand on parle de sobriété, on peut, face à la reproductibilité, je vois deux points qui sont un peu contradictoires. Le premier, il va dans le bon sens, et on peut se dire, pourquoi je veux reproduire une expérience? Parce que je veux pouvoir réutiliser. Je veux pas réinventer la roue. Je veux partir de ce que d'autres ont fait. Donc, du coup, là, on va dans le sens de la sobriété, au sens où, concrètement, voilà, je me base sur ce qu'ont fait les autres et j'évite de refaire. Donc ça va dans le bon sens. Il faut aussi avoir conscience, et j'insiste sur le fait que ça va quand même dans le bon sens, même si c'est que pour pouvoir refaire, il faut que je stocke, il faut que je garde la trace, il faut que je sache ce que les autres ont fait. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de la reproductibilité, c'est justement de pouvoir garder ces traces, et des traces un peu minimales. Ouais. Des traces qui me permettent de garder ce dont j'ai besoin, quitte à refaire une sous-partie des calculs dont l'enjeu est moins grand et pour lequel je sais que j'aurai pas de problème de reproductibilité. Ça, ce sont des vrais problèmes de recherche informatique en reproductibilité.
D'accord. Alors, comme tu parles de garder traces, je relaye la deuxième remarque qui est un peu liée. Travaillez-vous avec Software Heritage, qui, en archivant des logiciels, aide a priori à garantir dans le temps de pouvoir reproduire des expériences dans un contexte informatique cohérent?
Alors oui, bien sûr, on connaît très bien Software Heritage, Roberto, très bien. Tout ça, c'est la même communauté. Mais j'allais dire, donc c'est évidemment la même idée. Il y a cette idée de garder effectivement la trace de l'histoire même, puisque c'est ça l'héritage, des différents logiciels, de leurs évolutions et autres. Bon, nous, on va rajouter une couche d'exécution. C'est pas tant que le code, c'est le code tel qu'il a tourné à un moment donné qu'il faut qu'on ait aussi. Sous quel environnement et avec quelles données. Donc vraiment quelque chose où ça tourne. Dans Software Heritage, il y a une partie fondamentale qui est le quoi, qu'est-ce qui tourne. Nous, ensuite, derrière, il faut que ça tourne et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire des systèmes reproductibles.
D'accord. Conrad, tu voulais ajouter quelque chose?
On va parler des geeks tout à l'heure et ce sera le moment de revenir sur Software Heritage parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc peut-être on va attendre un petit peu.
D'accord, attends. Écoutez, on va peut-être faire une pause musicale à ce moment-là et je signale donc qu'on a parlé de Software Heritage à deux reprises dans l'émission. Donc la dernière fois c'était l'émission 134. Donc c'était pas avec Roberto Di Cosmo à l'époque, je sais plus avec qui c'était, mais on me le mettra sur le salon web. En attendant, on va faire une pause musicale. Donc je cherche juste la pause musicale parce que elle est là. Nous allons écouter Last Dance par Zero Project. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Remember, remember.
écouter Last Dance par Zero Project, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre notre discussion qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos invités Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Hensen. Donc juste avant, on parlait de la reproductibilité, on va revenir sur les questions informatiques et puis sur les solutions. Mais il y a un terme dans la préparation qui est venu assez rapidement, c'est celui de la crise de la reproductibilité. Alors c'est quoi la crise de la reproductibilité, Sarah?
Alors quand on dit crise, en fait derrière il y a prise de conscience. Donc là, la crise de la reproductibilité, par exemple dans mon domaine en bioinformatique, mais elle a été concomitante dans beaucoup de domaines à la fois, elle est arrivée à un moment donné où d'un coup, on s'est retrouvé en bioinformatique avec beaucoup de données disponibles qui se sont mises à être analysées de façon un peu systématique. Et donc ce moment-là, il est tombé au moment où on a eu de nouvelles techniques pour faire du séquençage. Avant, le premier génome humain, il a mis des années et des années à être obtenu, beaucoup d'équipes de recherche qui ont dû travailler entre elles et autres, alors qu'aujourd'hui, on séquence, vous l'avez vu, très rapidement un ARN pour un virus et de la même façon un ADN pour si on avait un génome, par exemple un génome humain. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques, des centaines et des centaines, qui tous disent, finalement, par exemple, obtenir des résultats sur un génome humain ou sur des éléments qui sont basés sur un génome, avec des mêmes techniques et puis les mêmes outils. A priori, quand on lit l'abstract, c'est-à-dire le résumé, quand on va même dans la section méthodologie de l'article, on peut avoir des informations qui nous disent que finalement, il s'est passé la même chose systématiquement. Et pourtant, les résultats sont pas les mêmes. Et pourtant, quand on reproduit un des articles et qu'on essaye de le refaire, on trouve pas la même chose. Et ça se passe pas sur un ou deux papiers, ça se passe massivement sur des centaines et des centaines de papiers, alors que pourtant, les données ont l'air claires, on nous parle de l'assemblage du dernier génome humain, les outils ont l'air clairs, on nous parle de l'outil qui est associé justement à une machine qui fait le séquençage, tout ça a l'air clair, et pourtant ça ne l'est pas. Et donc c'est là qu'il y a eu cette crise de la reproductibilité qui est sortie même dans les journaux. Le New York Times en 2009 a fait un papier dédié à cette problématique en montrant le nombre d'articles scientifiques et notamment Bioinfo qui étaient rétractés, retirés complètement parce que justement les résultats on n'arrivait pas à les reproduire. Et donc en fait là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux problèmes de fond. Le premier c'est les données, parler du génome humain comme s'il n'y en avait qu'un unique possible, c'était déjà une erreur. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génome de référence aujourd'hui, il évolue, il a plusieurs versions.
D'accord.
Si je ne sais pas sur quelle version je suis, potentiellement je peux avoir des résultats qui sont sensiblement différents. Et puis, toujours ce problème logiciel où finalement j'ai beau dire que j'utilise tel outil, avec quels paramètres, sur quel environnement. Et là, on retombe sur les problématiques que définissait Conrad tout à l'heure. Donc c'est ça qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, où là, d'un coup, on a vu les éditeurs s'affoler, se dire « oulalalala, on va avoir des papiers rétractés, les gens ne vont plus avoir confiance dans les scientifiques, il faut qu'on bouge ». Ça a été, j'allais dire, il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, vraiment le coup de tonnerre qui a fait qu'on a pris conscience et qu'on s'est mis à construire des outils et à essayer de mieux former sur l'utilisation de ces outils pour avoir des solutions reproductibles.
D'accord. Conrad, là-dessus ?
Peut-être pour compléter un peu en dehors de la bioinformatique, effectivement, comme se disait Sarah, cette crise a frappé beaucoup de domaines scientifiques en même temps. Et j'y dirais que ceux qui n'ont pas été frappés, ça va venir après. C'est un peu inévitable. Donc il y a d'un côté le développement de l'informatique qui est responsable, parce qu'on a trouvé tous ces jolis outils informatiques et on s'est mis, je peux faire des jolis projets de recherche avec. Et c'est après, on s'est rendu compte que, comme pour toute méthode scientifique, il faut aussi une certaine rigueur, on n'a pas toujours à adopter. Et en fait, moi je dirais que maintenant, la recherche de la reproductibilité computationnelle, c'est essentiellement introduire la rigueur qui devrait être la norme en science et qui n'a pas été parce que c'était le grand enthousiasme, toute une œuvre de tous ces jouets qu'on nous a donnés. On a joué avec et maintenant on se calme un peu et on fait un peu attention. Mais j'aimerais bien dire autre chose aussi parce que la crise de la reproductibilité, ça a essentiellement deux composantes. Et nous, aujourd'hui, on parle essentiellement de ce qu'on appelle la reproductibilité computationnelle. Mais il y a un autre volet qu'on ne va pas évoquer, mais il faut quand même le mentionner, qui est la reproductibilité statistique, qui joue aussi un très grand rôle dans la crise de la reproductibilité, dans d'autres domaines, notamment dans la recherche médicale, dans la recherche en psychologie, dans les sciences humaines. Et là, le problème plutôt, c'est aussi un peu lié à l'informatique, parce que les méthodes statistiques à grande échelle, on ne pouvait pas les appliquer sans ordinateur. Donc l'informatique et notamment les ordinateurs personnels ont mené à une situation où à peu près n'importe qui peut, avec deux clics de souris, faire une analyse statistique. Ça ne veut pas dire que cette analyse est raisonnée, est fondée, que la personne qui l'a fait ce qu'elle fait, que les données sont suffisamment bonnes pour extraire des informations qu'on veut. Donc ça, c'est aussi l'autre grand volet de la crise politique qui s'est produit à peu près en même temps. Donc dans le terme en crise de réplicité, on mélange un peu ces deux phénomènes sous un seul étiquette.
D'accord. Donc il y a cette crise, cette prise de conscience, comme dit Sarah. Et donc, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui est mis en place? Et plus globalement, quelles sont les solutions pour justement cette question de la reproductibilité des environnements logiciels pour garantir une reproductibilité des expériences et donc la confiance dans ce qui est publié? Parce que finalement, à vous entendre, on pourrait commencer à douter de ce qui est publié dans les articles. Donc, c'est quoi les solutions qui existent aujourd'hui? Il y a sans doute différentes solutions.
Il y a une solution qui a un peu motivé notre émission aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, qui s'appelle Geeks. Et c'est plus largement l'idée de tous ces outils qu'on a créés ces dernières années pour maîtriser les environnements logiciels. C'est une gestion, c'est simplement un meilleur traçage de ce qu'on fait, traçage de provenance des logiciels, et Sarah va me dire que les données aussi, moi je suis pas trop dans les données expérimentales, mais le problème de fond est le même. Donc plutôt que dire que j'ai fait un script et je lance avec Python 3.8, c'est ce que ça me dit quand ça lance, je dis attention, c'est Python 3.8 compilé avec GCC 7 ou avec GCC 6. Bon, évidemment, tout le monde se dit que ça devrait pas faire de différence. Oui, je suis d'accord, ça devrait pas, mais on a trouvé que de temps en temps, ça fait une différence. Et ce serait mieux de le noter au cas où quelqu'un trouve 2 ans plus tard que la différence est importante. Il vaut mieux que je la note dès aujourd'hui. Et donc, l'idée de tous ces outils qu'on est en train de développer, c'est de tracer précisément chaque étape d'un calcul. Parce que si je me mets, moi je dis, mon calcul, c'est je lance un script Python. En réalité, c'est la dernière étape d'un calcul. L'étape précédente, c'était de compiler un interprète Python. Et si je remonte, ça remonte à 200 octets que quelqu'un a tapé à la main dans un ordinateur. Et de là, on construit couche par couche un environnement logiciel. Donc l'idée, c'est, notamment de Geeks, c'est d'enregistrer tout ça du début à la fin et pour qu'on puisse les réfère à l'identique. S'il faut, ça prend beaucoup de temps, mais on peut. Et ça peut être encore un point de revenir à la sobriété qui a été évoquée tout à l'heure. Évidemment, reproduire, ça, refaire, ça sent comme si on refait du travail pour rien, juste pour vérifier que c'est la même chose. Pour moi, le but à long terme, c'est que la reproductibilité n'est pas quelque chose qu'on évolue tous les jours, mais qu'on arrive à un stade où les outils sont tellement fiables que la reproductibilité devienne la norme et qu'on n'a plus besoin de la vérifier. On la vérifie une fois par an pour être sûr que tout va bien, mais pas en permanence comme on fait maintenant parce qu'on est stressé un peu par la crise.
Donc si je comprends bien, l'objectif de ces outils, dont Geeks, dont on va parler un peu plus après, c'est de garder trace de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois des différents, comme tu dis, scripts Python, mais aussi de l'environnement logiciel sur lequel il tourne, des données aussi à côté pour être sûr que c'est les bonnes données. Donc quelque part, c'est d'avoir un historique, on dit, cette expérience a été faite tel jour avec telle et telle version de logiciel, et de manière à pouvoir la reproduire. Donc techniquement, on refait un ordinateur, on réinstalle un système, ou finalement, il y a des outils un peu plus automatisés qui permettent de, quelque part, de revenir en arrière. Imaginons qu'on est sur un système avec une version X, mais on vous refait l'expérience d'il y a 6 semaines. Comment ça se passe? Est-ce qu'on réinstalle un nouveau système ou est-ce qu'on est capable de revenir en arrière?
Les deux se font.
Les deux se font.
Et idéalement, évidemment, on n'aimerait pas devoir réinstaller un système, mais ça se fait parce que quand on n'a pas d'autre solution, c'est mieux que rien. Mais l'idée, c'est tout juste d'enregistrer l'historique de la construction d'un environnement logiciel avec l'optique de pouvoir la refaire à l'identique. Et du coup, on peut aussi se dire que si j'ai fait un environnement à un moment donné, après j'ai fait des mises à jour, etc., mais je peux tout à fait envisager de simplement revenir à l'environnement ancien parce que j'ai tout enregistré. Donc je peux simplement, dès mon ordinateur, donne-moi les différences, regarde qu'est-ce qui a changé exactement et reviens en arrière. Ce qui nécessite aussi de garder évidemment une archive de tout ce qu'on a fait. Et là, c'est là qu'intervient Software Heritage. qui est effectivement très important pour garder la trace du code source, parce que bon, comme tout le monde qui est dans le monde du logiciel libre, c'est la base de tout logiciel, c'est le code source, pouvoir accéder au code source, lire le code source, compiler le code source. Et là, c'est pareil, reconstruire un environnement logiciel, ça se fait à partir du code source, et la toute première nécessité, c'est de l'avoir enregistré, archivé. Et dans les premiers cas qu'on a eu de la crise de la réactualité en le volet computationnel, le problème principal était les codes sources disparus. C'était des chercheurs qui ont écrit un script, qui l'ont fait tourner, publié le résultat et jeté le code source pour libérer de l'espace sur le disque dur.
Ah oui, donc ils n'ont même pas conservé.
Oui. D'accord. Non, c'est ça. Ils n'ont pas conservé, ils ont jeté consciemment pour faire le ménage. Et donc ça, c'est un état d'esprit qui a complètement disparu. Ça ne se fait plus aujourd'hui.
T'es sûr?
Oui, je suis assez sûr.
Mais ça paraît un peu fou parce que là, quand on parle de script, ce n'est pas forcément des scripts très... Enfin, c'est pas des scripts très très longs, enfin, ou en tout cas, c'est pas des gigas et des gigas, c'est des scripts. C'est...
Non. Ben, les problèmes, les gens voulaient. Bon, l'histoire de libérer l'espace disque, c'est parfois. Oui. Ils jettent en fait les grosses données et accessoirement les petits scripts à côté.
D'accord.
En fait, la perte de l'un comme l'autre est un problème. Donc, il faut effectivement tout archiver. Et ça, c'est pas. Non, c'est un état d'esprit qu'il faut développer, il faut des outils, il faut les moyens. Et il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça.
Oui, ils font du ménage dans leur. Dans leur script, comme d'autres font de ménage dans leur mail, alors qu'en fait, ça ne sert à rien, c'est encore pire qu'autre chose. Mais bon, Sarah.
Alors, on a pareil sur les données, effectivement. Hein, l'idée de dire, je vais prendre, par exemple, mes données, puis bon, bah, je les filtre un petit peu, je les arrange un petit peu, et c'est finalement sur, non pas les données d'origine, mais des données un petit peu modifiées que je fais tourner mes scripts. Et puis, je perds une des parties, une de ces variantes de ces données intermédiaires que j'ai générées et que j'ai travaillées. Et donc ça, c'est aussi un des problèmes qu'on va avoir en reproductibilité. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que heureusement, les outils aujourd'hui, ils font le travail pour nous parce que ce serait particulièrement fastidieux de garder la trace entre guillemets à la main. C'est-à-dire que si le développeur, il est obligé à chaque fois qu'il fait quelque chose de dire ah tiens et puis sauvegarde-le-moi à tel endroit et que c'est à lui de penser à tout, on n'en sortirait pas. Pour les données, c'est la même. C'est-à-dire que on a beau être super expert en base de données, se dire qu'à chaque fois que je lance un système, une ligne de code sur mes données, je dois moi en tant que développeur prévoir où doivent être stockées mes données, comment est-ce que je les numérote, comment est-ce que voilà, ça serait particulièrement lourd. Aujourd'hui, on a des systèmes qui gèrent ce qu'on appelle la provenance justement des données, c'est-à-dire leur transformation. Hein, quelque part, quand on fait des analyses de données, on part de données qui sont un peu brutes et puis on va les raffiner, on va les transformer, on va statistiquement extraire un certain nombre d'informations, on va les combiner avec d'autres données. Tout ce pipeline-là, en termes de données, il peut être aussi capté par certains environnements pour le développeur.
D'accord.
Et ça, c'est nouveau.
Ok, et t'as des noms de logiciels qui font ça ou est-ce que...
Alors,
j'ai des trucs en tête, mais je suis pas sûr de savoir exactement si c'est les mêmes.
Alors, par exemple, les systèmes de workflow scientifique vont fonctionner de cette façon-là. D'accord. Ils ont ce qu'on appelle des modules de provenance qui vont capter ce type d'informations, par exemple. Au niveau logiciel, on ne l'a pas prononcé jusqu'à maintenant. Je ne veux pas me faire jeter des... Mais bon, on a aujourd'hui quand même tous les environnements qui sont ce qu'on appelle à base de containers, dans lesquels, en fait, quelque part, on prend une photo, on freeze l'état de la machine telle qu'elle est à un moment donné, et c'est dans cet état congelé, si j'ose dire, qu'il n'évolue plus, qu'il reste tel qu'il est, qu'on s'assure qu'une expérience peut tourner au fur et à mesure. Mais ça, c'est des solutions qui marchent à un moment donné, si je veux reproduire à l'identique. Ce que disait Conrad tout à l'heure, c'est que pour que la science avance, c'est un premier pas d'avoir l'identique. Ce qui nous importe, nous, c'est de regarder un petit peu ce qu'on appelle la robustesse d'une approche, c'est-à-dire s'autoriser à dégeler un peu les choses, à faire évoluer un certain nombre de ces logiciels, peut-être même à bouger une sous-partie de nos données pour voir est-ce que le résultat scientifique, il dit toujours que, par exemple, ces trois gènes sont bien associés au cancer du sein. Est-ce que ça, c'est un résultat scientifique qui est toujours vrai? Ou est-ce que dès que je bouge un tout petit peu 5% de mes données, patatras, ça tombe par terre? Ça joue aussi dans la véracité, dans la confiance qu'on peut avoir dans un résultat scientifique.
D'accord. Alors je suppose que tu parles que pour la vérification, la revue par les pairs, cette notion de container, donc une sorte d'environnement logiciel, comme tu dis, figé, qui englobe tous les scripts, tous les process nécessaires, etc. On peut quelque part transmettre ce container à une autre équipe qui va l'installer sur son propre système et pouvoir vérifier. Oui, est-ce que c'est faisable
tout
avec
à fait.
Une garantie importante?
Tout à fait. Par exemple, dans l'Institut français de bioinformatique qu'on a en France, ils ont un cloud dans lequel il y a un certain nombre de ces machines virtuelles de type container qui sont proposées à la communauté pour que les gens puissent travailler dans un environnement qui soit comparable, pour que différentes équipes en France puissent comparer leurs résultats parce qu'ils les ont obtenus dans un environnement informatique qui est pour le même tout le même.
D'accord. Alors question, est-ce que ces conteneurs, ces outils sont en libre? Je pose la question parce qu'en fait, dans la confiance aussi, puis je pose la question parce que je sais qu'Conrad a envie de parler de ça aussi, on a préparé l'émission, mais là on parle d'outils, on n'a pas précisé s'ils étaient libres ou privateurs, mais le fait d'avoir des outils libres, ça aussi permet de voir le code source, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ces logiciels, alors que dans le code privateur, ça serait des conteneurs, des boîtes noires. On ne saurait pas, en fait, finalement, on devrait faire confiance, quoi. Donc, quelle est la relation entre, justement, cette reproductibilité des environnements logiciels et le logiciel libre?
Alors, premièrement, les conteneurs, donc la technologie qui permet de faire fonctionner des conteneurs, ça ne fait pas du Linux. Donc, c'est du libre, il n'y a pas de question.
D'accord.
Après, il y a des logiciels qui font l'administration des conteneurs, qui me permettent de construire et faire tourner, etc. Là, il y a des libres, du un peu moins libres, il y a un peu tout. Et après, il y a le contenu du conteneur. Donc, une image de conteneur que je distribue contient plein de logiciels en état compilé binaire. Et ça peut être libre ou pas. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Et on se rend assez régulièrement compte que quand il y a un problème de reproductibilité, assez souvent, c'est effectivement le non-libre qui pose problème. Personnellement, j'ai eu une expérience de ce type-là. Je suis partie de l'équipe rédactionnelle d'une revue en ligne qui s'intéresse à la reproductibilité. Et donc, on a eu à un moment donné une soumission dont on ne pouvait pas vérifier la reproductibilité, contrairement à nos habitudes, parce que ça s'était basé sur un conteneur d'NVIDIA pour les GPU. Bon, je suis sûr que vous n'avez pas, c'est pas grave.
C'est une carte graphique.
Ouais. Donc, NVIDIA est un fabricant de cartes graphiques qui propose des pilotes pour ces cartes graphiques qui ne sont pas libres. Donc, ils proposent des conteneurs tout prêts avec leur pilote dedans. Et on peut se baser là-dessus et faire son conteneur en modifiant celui d'NVIDIA. Bon, c'est très bien. Un peu de peu le diffuser. Mais bon, après, c'est NVIDIA qui fait évoluer ses pilotes et ils font pas une archive des anciennes versions. Et du coup, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, 6 mois après le calcul d'origine, n'était plus reproductible parce que NVIDIA avait modifié sa chaîne d'outils et c'était fini. Là, c'était carrément un problème du propriétaire parce que si c'était du code source libre, on l'aurait trouvé dans Software Heritage.
Ouais.
Voilà.
Marie-Odile, sur le salon web, a une question. Ces conteneurs sont-ils en France?
Alors,
je pense qu'elle fait référence à l'hébergement notamment des données.
Ce ne sont pas des objets physiques. Des conteneurs,
oui,
c'est... Voilà.
Oui.
Ils sont nulle part.
Ils sont des machines.
Ils sont des machines, mais bon, on peut les copier facilement. Donc, la question dans quel pays ils sont, on n'y réfléchit pas.
C'est un peu comme un gâteau avec une recette. Ouais. On a la recette du conteneur. C'est quelques lignes, ça. Ça peut être... c'est tout petit. Et ensuite, le gâteau, on le fabrique sur son propre ordinateur.
D'accord. OK. Donc là, on parlait de conteneurs. Geeks, ça semble être différent. Alors, je précise que Geeks, ça s'écrit G-U-I-X.
Ouais.
Et on parlera tout à l'heure après des journées Geeks, mais très rapidement. Donc, défi Conrad, essayez d'expliquer ce qu'est Geeks.
Oui, en fait, c'est la partie la plus difficile parce que c'est plein de choses qui sont liées, mais on comprend le lien seulement quand on est à fond des dents. Et pour plus de gens, ça s'arrête avant. Alors, Geeks, si vous regardez sur le site web de Geeks, ça se présente comme une distribution de Linux. Ça se prend comme un gestionnaire de paquets. Donc là, gestionnaire de paquets veut dire qu'un paquet, c'est une unité de distribution de logiciels. Et donc, Geeks fait partie des gestionnaires de paquets. Il y en a d'autres. Il y a Debian, son système APT, par exemple. Bon, je crois que pas mal des auditeurs connaissent l'un ou l'autre des gestionnaires de paquets. Donc, Geeks en est un autre. Geeks est aussi, et c'est pas tellement mis en avant sur le site, aussi un gestionnaire de conteneurs. Donc, le plus connu dans le monde parmi les chercheurs s'appelle Docker, c'est le plus connu en général, mais c'est un gestionnaire de conteneurs qui est fait pour le déploiement de systèmes logiciels à l'échelle industrielle. C'est pas fait spécifiquement pour les recherches pour la reproductibilité. Donc, Geeks est un autre gestionnaire de conteneurs qui peut coopérer avec Docker. On peut, par exemple, créer une image Docker avec Geeks, par exemple, mais du coup, ça devient reproductible. Donc, Geeks est plus l'outil, comme les SRA, c'est plus l'outil qui applique la recette et en fait le gâteau. Donc Geeks c'est encore compliqué parce que Geeks c'est deux choses en même temps. Geeks est le robot qui fait la cuisine, mais c'est aussi la collection de recettes. C'est tout en un. C'est tout en un pour une très simple raison. C'est pour tout juste éviter qu'il y ait une perte de cohérence entre les recettes et le robot qui fait la cuisine. Ah, j'aime cette image. Je crois que le robot de cuisine, c'est vraiment pas mal comme description pour Geeks. Mais on travaille toujours d'ingrédients de base. Donc, le robot de cuisine Geeks, il prend que du code source et fabrique des gâteaux de plus en plus compliqués. Donc, il fait d'abord une couche de biscuits, après la crème chocolat, et fait le rouleau, tout ça, il le coupe en tranches et assemble ça, etc. Donc, tout ça, c'est fait étape par étape.
D'accord. Alors, je précise qu'on parle notamment de Geeks, déjà parce que c'est une des solutions à la question de la reproductibilité, et également parce que, donc, en fin de semaine, donc, du 16 au 18 septembre, à Paris, ont lieu les 10 ans de Geeks, donc Geeks a déjà 10 ans, et que vous êtes, Sarah et toi, Conrad, intervenants et intervenantes dans ces journées. Alors, l'un des organisateurs, donc Tanguy, qui est à côté de nous dit que les salles sont pleines, mais vous pouvez encore venir. Par contre, on prévient quand même que, voilà, c'est quand même dédié à des gens qui ont envie de comprendre effectivement ces choses-là. C'est pas forcément. On va pas dire que. Je pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui utilise une distribution libre pour faire de la bureautique ou autre chose va. Cette personne va utiliser Geeks? Non. Donc c'est plutôt un public, effectivement, soit de chercheurs, soit aussi d'industriels, finalement, parce que finalement, la question de la reproductibilité dans la recherche et dans l'industrie, c'est assez proche.
Juste pour faire des Geeks, alors les journées Geeks s'adressent quand même un peu à une certaine expertise technique. Donc même quelqu'un qui veut se lancer dans Geeks, c'est pas ces journées-là qui font le tutoriel pour les débutants.
Donc c'est des rencontres plutôt de personnes de Geeks, en fait.
Oui, c'est pour la communauté Geeks. Et pour les gens qui s'intéressent à des sujets connexes comme la reproductibilité en recherche, qui est le sujet de la première journée vendredi, mais ça s'adresse plutôt aux développeurs geeks et aux gens qui sont peut-être intéressés à devenir développeurs, qui sont utilisateurs et veulent faire le pas pour devenir contributeurs. Donc c'est ça le public visé, c'est pas les débutants.
D'accord. Mais ceci dit, donc vendredi, j'ai bien retenu, si vous voulez entendre parler Sarah et Conrad de reproductibilité et les rencontrer, vous pouvez venir. Et peut-être le week-end, éviter de venir, sauf si effectivement ça vous a donné envie.
À l'IRIL, oui. Sinon, on a appris ce matin qu'il y a une transmission directe en vidéo. Et évidemment, tout sera enregistré aussi. C'est moins bien que nous rencontrer en vrai, mais c'est quand même pas mal.
Effectivement, Tanguy nous a dit que c'était transmis en vidéo. Donc c'est donc du 16 au 18 septembre à Paris, donc à l'IRIL. Donc c'est à Jussieu, c'est ça, IRIL? À
Jussieu, oui.
Et de toute façon, toutes les informations sur le site libreavoue.org. Et en tout cas, on souhaite un bon anniversaire. Vous transmettrez, cher Tanguy, un bon anniversaire à Geeks et aux équipes qui développent Geeks, parce que 10 ans, c'est... Voilà, merci.
Mais pour revenir rapidement à la question de l'industrie, etc., effectivement, la question de la reproductibilité concerne d'autres domaines que la recherche. Il y a par exemple l'histoire de la cybersécurité, pour être un grand client de ces techniques, par exemple c'est Bitcoin. Parce que ce qui est important, si on veut faire confiance au réseau Bitcoin, que ça tourne réellement le logiciel Bitcoin et pas un logiciel truqué. Donc du coup, on est intéressé à mettre en public pas seulement le code source, mais aussi la recette qui produit le gâteau à partir de la recette. Donc pour valider que pas seulement la recette est la bonne, mais aussi que la recette a réellement été appliquée et pas une autre.
D'accord.
Il y a des domaines complètement différents aussi. Par exemple, j'ai souvent parlé avec des chercheurs chez EDF, EDF Recherche, pour lesquels la reproductibilité des calculs d'évaluation des centrales électriques s'impose parce que c'est une obligation légale. Donc quand ils utilisent des logiciels pour des calculs pour prouver que leur centrale respecte certaines normes, ils doivent fournir la preuve de reproductibilité des calculs. Donc il y a la même notion qui se présente dans d'autres domaines où on veut pouvoir vérifier qu'un calcul fait qu'est-ce que son auteur affirme que ça fait. Donc ça, c'est pas que de la recherche, non.
Ok. Sarah, oui,
alors
aussi.
Peut-être pour compléter, de façon plus générale, en industrie aujourd'hui, parce qu'on a changé en fait de façon de programmer, on programme plus comme il y a 15 ans, notamment dans les industries on utilise beaucoup de microservices, des nouvelles façons de construire des architectures logicielles, des environnements comme Docker ou autres sont omniprésents dans vos données bancaires, dans vos données médicales, bien sûr il y a ce type de structures qui sont derrière. Donc voilà, c'est plus pour rassurer les auditeurs. En recherche, on se pose des questions de fond sur comment rendre nos environnements reproductibles et plus facilement manipulables tout en étant reproductibles. En industrie et autres, la reproductibilité sur des choses qui sont faites de façon journalière, quotidienne, où c'est un peu tout le temps les mêmes processus qui tournent, évidemment que ça c'est reproductible.
D'accord. Et est-ce qu'il y a la reproductibilité informatique à 100%, ça existe ou ça existera ? Est-ce qu'on pourra être sûr
Tout dépend quel effort on est prêt d'investir. Donc la question, c'est plutôt pas si c'est possible, mais si les moyens valent l'effort. Parce que là, nous, on a parlé d'environnement logiciel. Pour tout ça, il faut du matériel. Il faut un processeur qui est compatible. Je peux tout ma belle pile logicielle, si en bas, à la base, je n'ai pas un processeur qui peut l'exécuter, je fais rien avec. Bon, là, actuellement, la plupart des gens, c'est dans les processeurs Intel ou compatibles et qui sont à tous les coins de rue. On n'a pas trop de peur que ça disparaisse, mais bon, je suis assez sûr que dans 50 ans, on n'en parlera plus des x86. Donc, après, on peut passer dans les machines virtuelles. Et est-ce qu'ils sont réellement compatibles avec les processeurs d'origine? Voilà. On peut toujours pousser plus bas. Ça, c'est une des dimensions où il y a une limite à un moment donné par l'effort qu'on veut faire, parce qu'évidemment je peux toujours demander à quelqu'un qui sait faire des puces de me refaire un processeur Intel à l'identique, hein. Mais si j'ai des moyens de le payer pour ça, c'est pas impossible, mais on va pas le faire peut-être. Et pareil, la question se pose aussi pour tout ce qui échange sur les réseaux. Est-ce que je veux réellement archiver tout ce qui se passe sur Internet? Il y a des choses qu'on veut archiver, il y a d'autres qui disent c'est éphémère, on va laisser tomber. Donc ça aussi, tout a un coût, et il faut se poser la question jusqu'où on est prêt à aller. Donc à mon avis, le 100% reproductible est un idéal, on peut se rapprocher tant qu'on veut, mais vraiment arriver au bout, non, je crois pas.
D'accord. Alors il reste très peu de temps avant la question finale, donc est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant la question finale? Quelque chose qu'on aurait oublié? On a forcément oublié des choses, non?
Non, je crois qu'on a été... ça s'est bien emboîté, si j'ose dire. Et d'accord, du coup, on rajouterait du bruit, je pense, si on venait sur autre chose.
Alors, on ne va pas rajouter du bruit, on va rajouter de la synthèse. Chacun et chacune, en moins de 2 minutes, quels sont les éléments clés à retenir de l'émission? Qui veut recommencer? Alors, Sarah.
Allez-y. Alors, donc, moi, je dirais que le manque de reproductibilité, si on veut parler, si on veut faire un wrap-up un peu, donc c'est un problème qui va être omniprésent aujourd'hui, parce que l'informatique est omniprésente dans notre société, et ça dépasse complètement le contexte de la recherche. Même si l'émission d'aujourd'hui était sur le contexte de la recherche, cette problématique, elle est présente partout. Et je dirais qu'il est urgent d'agir, d'abord dans le fait d'informer, donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et qu'on essaye de faire globalement dans les journées qui sont organisées un peu de plus en plus généralement, et former. Informer, c'est bien, mais il va nous falloir former. Former d'abord des enseignants à savoir ce que c'est que ces outils, ce que c'est que cette crise de la reproductibilité, les enjeux, les problèmes qui sont posés aujourd'hui par ces environnements informatiques, et bien sûr former des enseignants qui vont à leur tour former des étudiants. Et donc là-dessus, on manque de bras, on manque de personnes prêtes à venir dès, j'allais dire, le début de la licence, hein, dès les premières années post-bac, dès qu'on manipule une machine, il est très important qu'il y ait cette prise de conscience qui soit faite.
D'accord. Merci Sarah. Conrad ?
Oui, moi je vais prendre un peu un autre point de vue complémentaire, c'est que pour moi la reproductibilité fait partie des labels des qualités d'une certaine façon, c'est comme on a maintenant les normes ISO pour n'importe quelle partie de la production industrielle, dans le monde du calcul de l'informatique, dans tous ces contextes, la reproductibilité devient à mon avis un label de qualité, une preuve de rigueur qui ne dit pas que ce qu'on fait est vrai, ni faux, c'est pas ça, mais qui donne confiance. Et dans ce sens-là, il faut effectivement encourager, c'est bien de parler aux jeunes, il faut déjà parler aux chercheurs en cours. Il faut leur expliquer que la rigueur fait partie de la méthode scientifique. Et il y a aussi une obligation morale à tout moment de tout bon chercheur d'améliorer ses pratiques. Donc moi, je vois, ça c'est un peu dans ce sens-là. Je vois beaucoup de collègues qui disent que la reproductibilité, c'est du travail, on a déjà trop de choses à faire, on n'a pas le temps, etc. Si je n'ai pas le temps de m'améliorer, est-ce que je devrais faire de la recherche ou pas? Évidemment, je connais parfaitement les problèmes, je ne veux pas minimiser les difficultés, mais je trouve qu'il faut mettre en avant cet aspect de qualité, de rigueur qui fait partie de la démarche scientifique.
Écoute, merci. Je vais juste préciser donc que Sarah est une, alors je ne sais pas si c'est une vingtaine de décodeuses du numérique. En tout cas, le CNRS a publié une petite. Alors c'est une bande dessinée qui présente des chercheuses dans différents domaines. Hein. Alors c'est présenté, c'est un portrait qui est présenté sous forme de BD, donc et avec un petit un petit résumé de la vie de la personne, des problèmes qu'elle a pu avoir quand elle était, quand elles étaient à l'école, et c'est malheureusement des problèmes que les femmes ont beaucoup. Je le conseille, je crois qu'il vaut 6 €, c'est ça. Donc on mettra le lien sur le site web libreavoue.org. Ça s'appelle Les décodeuses du numérique, et c'est vraiment et c'est accompagné aussi de ressources pour être utilisées dans les écoles.
Il est en libre, hein, totalement. Ah, tout le oui. PDF, vous pouvez l'imprimer chez vous si vous le souhaitez.
Il est totalement en libre, effectivement. Donc voilà, j'étais ravi de recevoir Sarah dans cette émission. Donc nos invités étaient Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Hinsen sur donc, la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Je remercie évidemment Tanguy Le Carreau pour l'aide proposée et apportée sur la préparation de l'émission. Je le félicite et je lui donne beaucoup de courage pour les dernières heures de préparation de la journée Geeks qui a lieu à Paris donc du 16 au 19 septembre 2022. On mettra évidemment les références sur libreavoue.org et ça sera diffusé en ligne également pour les personnes qui voudraient s'intéresser. Je rappelle que Conrad et Sarah seront partie des personnes intervenantes lors de ces journées. Vous intervenez quel jour ?
Le premier, vendredi matin.
Oui. Le vendredi. Vendredi, c'est la journée de la recherche.
D'accord. Allez, la journée du vendredi. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci beaucoup.